Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Et vous avez bien raison, l'actualité scientifique est riche encore en ce moment, bien sûr. Sur l'antenne de Graphite, vous nous écoutez soit sur internet, graphite.net, pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé avec les podcasts, et sur la bande FM, bien sûr, 94.9, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Bienvenue à tous pour cette émission. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 13 mars. Pas mal d'actualités, on va parler un petit peu de tout aujourd'hui. Je me suis dit, allez, on va pas faire de thématique particulière. Il y a tellement d'articles que je n'ai pas le temps d'évoquer avec vous que du coup, j'ai pris un petit peu ce que j'avais sous la main. Et on va essayer de développer tout ça pendant cette petite heure. 13 mars 1989, Tim Berners-Lee, informaticien au Conseil européen pour la recherche nucléaire, propose un système distribué sur le réseau informatique interne et ça deviendra le World Wide Web, le web, le WWW, ça date de 1989, cette histoire-là, mine de rien. C'est vieux. Plus récent, le 13 mars 2013, l'inauguration d'ALMA, le plus grand radiotélescope du monde, dans le désert d'Atacama. Naissance, le 13 mars 1674. Alors là, ça nous emmène assez loin. C'est la naissance de Jean-Louis Petit, que on nommera Petit le chirurgien. C'est un chirurgien, bien sûr, et anatomiste français. Il est passionné d'anatomie dès son plus jeune âge. Il profite des leçons de l'anatomiste Littré, qui demeure dans la maison de son père. Et alors qu'il est âgé d'à peine 12 ans, eh bien Littré lui confie le soin de son amphithéâtre. Donc il commence très petit, c'est une vraie vocation. Jean-Louis Petit devient membre de l'Académie royale des sciences en 1715. Il est nommé par ordre du roi Louis XV directeur de l'Académie royale de chirurgie lors de sa création en 1731. Son talent, son expérience lui valent une grande notoriété, surtout après ses travaux consacrés à des cas d'hémorragie, de fistules lacrymales et à des interventions sur le frein du pénis. Comme quoi ça mène à tout. Jean-Louis Petit, donc, est né le 13 mars 1674. C'est un nom, finalement, que je n'ai pas l'impression qui est passé dans la postérité, je ne sais pas, mais en tout cas, il était important, ce 13 mars, d'évoquer sa naissance. Décès le 13 mars 1719, c'est loin, là aussi, de Johann Friedrich Bodgert. C'est un chimiste allemand. Il est le créateur de la porcelaine de Saxe. En fait, il participe à des expérience pour fabriquer une porcelaine dure et translucide proche des porcelaines de Chine et du Japon. Et il découvre donc le kaolin d'Aoé qui se trouve dans la région de Saxe en 1709, ce qui permet justement ce kaolin de rendre la couleur blanche à cette porcelaine. C'est donc la découverte de la porcelaine de Saxe. Il fonde alors et il dirige en 1710 la manufacture royale de Meissen en Allemagne. Il devient riche et il meurt soudainement. C'est vrai qu'il est mort assez jeune, à moins de, il doit avoir 47 ans, je suis en train de calculer, et meurt soudainement, donc le 13 mars 1717, 1719, Johann Friedrich Bodger, chimiste allemand, inventeur de la porcelaine de Saxe. Voilà, toujours des informations qui nous permettent un petit peu de briller en société, bien évidemment. Comme ça, si vous avez un dîner ce soir, enfin dîner, attention, hein, geste barrière et tout, là, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de mettre en place une espèce de coalition pour dire on va tous faire un dîner ce soir. Non, pas du tout, c'est pas mon propos, mais en tout cas, toujours intéressant de briller en société et de dire, voilà, aujourd'hui, nous célébrons, entre guillemets, on va pas fêter la mort, mais on va célébrer la mort donc de Bodgert, qui était le créateur de la porcelaine de Saxe, un 13 mars. Toujours intéressant, voilà, de pouvoir étaler sa science, qui était le nom d'une ancienne rubrique dans cette émission Biotine. Allez, on va parler un petit peu de tout. Alors, on va quand même parler de la campagne vaccinale, parce qu'il y avait cette question qui était assez intéressante, qui était de se dire, est-ce qu'un vaccin qui n'empêche pas la transmission du virus est utile ? Oui, on se pose la question, parce que les différents vaccins contre la Covid-19 montre une efficacité assez remarquable. Ils préviennent les formes graves de la maladie jusqu'à 94% des cas. Cependant, les données manquent toujours pour savoir si ces vaccins réduisent aussi la transmission du virus. Il existe en effet deux types d'immunité conférées par les vaccins. L'immunité effective, c'est-à-dire qu'il va protéger la personne contre les principaux symptômes d'une maladie, mais n'empêche pas le virus d'entrer dans l'organisme et de s'y multiplier. Donc ça, c'est l'immunité effective. Et puis, il y a aussi l'immunité qu'on appelle stérilisante, qui va prévenir l'infection de l'organisme par le virus et empêche donc la propagation du pathogène. Et si la deuxième solution représente le but ultime de la recherche vaccinale, elle est en réalité rarement atteinte. Alors, un des cas les plus connus de vaccins stérilisants, c'est celui de la variole, la seule maladie dans l'histoire à avoir été éradiquée par un vaccin. Les anticorps produits par la réponse immunitaire en réaction au vaccin éliminent entièrement le virus de l'organisme et suppriment de fait la circulation de ce virus. La rougeole, c'est un autre exemple de vaccin à immunité stérilisante. Mais la plupart des autres vaccins, l'hépatite B, les oreillons, la grippe, ne procurent que ce qu'on appelle une immunité effective. Adam Bowditch, qui est professeur de médecine à l'université McMaster au Canada, explique dans le journal Scientific American, avec ces vaccins, le système immunitaire contient suffisamment l'agent pathogène pour prévenir la maladie, mais celui-ci peut résister dans l'organisme et potentiellement infecter d'autres personnes. Cela signifie que l'agent pathogène continue à circuler dans une population, où il peut rendre malade des personnes non vaccinées ou des personnes vulnérables, ou encore il peut évoluer vers une forme résistante à la réponse immunitaire. C'est un petit peu tout l'enjeu de ce qu'on écoute depuis maintenant plusieurs semaines. Dans certains cas, la vaccination peut même engendrer une diffusion accrue du pathogène. Les vaccins contre Bordetella pertussis, qui est en fait la principale bactérie responsable de la coqueluche, eh bien ces vaccins entraîne ainsi le développement du microbe dans les voies respiratoires, alors que l'infection naturelle produit une puissante réponse immunitaire dans les muqueuses. Et donc la transmission asymptomatique peut donc être un moteur majeur de la résurgence de la coqueluche dans les populations hautement vaccinées. C'est ce que expliquent les auteurs d'une étude de l'Institut Pasteur de Lille. Alors, question, faut-il vacciner massivement contre la Covid-19, sachant que l'on ne sait pas si le vaccin empêche la transmission du virus. La réponse est oui, et elle est clairement oui. Selon Richard Bailey, qui est l'auteur d'une modélisation sur le virus de Marek chez les poulets, il explique que la vaccination avec un vaccin non stérilisant réduit considérablement la charge virale chez les personnes vaccinées, mais aussi chez les personnes contact non vaccinées qu'elles infectent. Par conséquent, elles sont moins susceptibles de répandre des virus infectieux. Même une vaccination partielle avec ce type de vaccin a des conséquences positives sur le contrôle de la propagation et des symptômes de la maladie. Alors, une étude préliminaire portant sur le vaccin Pfizer-BioNTech montre une baisse significative de la charge virale chez les patients infectés qui avaient reçu une première dose de vaccin. Et donc, cela suggère que la vaccination réduit le potentiel infectieux des personnes vaccinées, même si elle ne prévient pas l'infection. C'est ce que confirme dans la revue Nature Virginia Pitzer, épidémiologiste à l'école de Yale aux États-Unis. Les essais du vaccin AstraZeneca ont également montré une plus grande réduction de la charge virale chez les personnes vaccinées. Alors, en attendant d'être fixée, la vaccination des populations à risque permettra en tout cas de désengorger les hôpitaux en empêchant les cas graves. Selon une étude portant sur l'Écosse et qui a été publiée il y a quelques jours, le vaccin Pfizer réduit le risque d'admission à l'hôpital de 85% 4 semaines après la première dose, celui d'AstraZeneca jusqu'à 94% et même 81% chez les personnes âgées, alors qu'il est réputé peu efficace chez elles, en fait. Donc, vous voyez, même AstraZeneca aussi a des effets bénéfiques. Donc, ce coronavirus ne sera peut-être jamais éradiqué comme la variole, mais il deviendra endémique et bénin, un peu comme le rhume, nous dit-on au final. Voilà, donc, à la question, un vaccin qui n'empêche pas la transmission du virus est-elle utile? La réponse est clairement oui, dans ces différentes études. Autre titre, et là on va parler, on a déjà parlé je crois la semaine dernière, de la découverte de cette ancienne brasserie en Égypte. Eh bien, on va retourner en Égypte et précisément 1550 ans avant Jésus-Christ, le pharaon Sekhenéta aurait été assassiné et si la date exacte de sa mort n'est pas connue, les circonstances semblent désormais plus claires. Il y a deux chercheurs dont l'étude est parue il y a quelques semaines dans la revue Frontiers in Medicine qui ont analysé la momie de ce pharaon et qui a été découverte dans les années 1880. En utilisant une technique basée sur les rayons X pour reconstruire des structures en deux dimensions, voire même également en trois dimensions, eh bien, ces chercheurs ont obtenu des images détaillées des blessures de ce roi, suffisamment détaillées pour en déduire l'origine. Et donc, ce pharaon, Sekeneretta, serait mort autour de ses 40 ans, ou plutôt exécuté, car l'examen indique qu'il était ligoté, les mains dans le dos, l'empêchant de se défendre. Les bourreaux se seraient servis de 5 armes différentes. Alors, lors d'une exécution normale sur un prisonnier ligoté, on pourrait supposer qu'un seul assaillant frappe, peut-être sous des angles différents, mais pas avec des armes différentes. C'est ce qu'explique Sahar Salem, qui est l'un des auteurs de cette étude. Elle est spécialiste de paléoradiologie. Elle suppose donc que la mort de ce pharaon était plutôt une exécution cérémonielle, nous dit-elle. Alors, en cause, son statut, sans aucun doute, mais surtout la guerre qu'il menait, ce pharaon, contre les Hyksos, cette dynastie a régné sur la basse Égypte durant un siècle. On est très loin, hein, c'est entre 1650 et 1500 avant Jésus-Christ, ne laissant donc que la Haute Égypte à Sekeneretta et ses prédécesseurs. Et donc lui, ce pharaon, ne l'entendait pas de cette oreille, clamant sa souveraineté sur l'Égypte entière. Il était surnommé le Brave. Il aurait perdu la vie dans son ultime bataille contre les Hyksos. Cela suggère donc que Sekeneretta était vraiment en première ligne avec ses soldats risquant sa vie pour libérer l'Égypte. C'est ce qu'explique Sahar Salem. D'après les connaissances actuelles, ce serait le seul pharaon connu à s'y être aventuré. C'est pour ça qu'on l'appelait donc le Brave. Sahar Salem ont également révélé des blessures jusqu'ici insoupçonnées, car habilement dissimulées par les embaumeurs, hein, c'est-à-dire que les personnes qui ont momifié donc ce pharaon Sekeneretta, la méthode choisie, sophistiquée, a permis de cacher certaines de ces liaisons à la tête sous une couche de matériaux d'embaumement, ce qui signifie une chose, c'est que la momification s'est déroulée dans un endroit bien équipé, comme un atelier royal, contrairement aux précédentes interprétations qu'on aurait pu avoir. Mais cette momification aurait eu lieu tardivement, en témoigne la présence du cerveau. Sekeneretta serait resté assez longtemps positionné sur le côté gauche pour que ses méninges s'y déplacent, forçant donc les embaumeurs à se contenter d'une éviscération, donc l'enlèvement des organes afin de conserver l'organisme, sans ablation du cerveau, ce qui soutient l'hypothèse d'une mort sur le champ de bataille. Les auteurs tirent également une autre conclusion, c'est que les Hyksos auraient visé en particulier le visage du pharaon dans le but de le déshonorer. Cet assassinat aurait marqué un tournant dans l'histoire de l'Égypte, puisque la mort de Sekeneretta a motivé ses successeurs à poursuivre le combat pour unifier l'Égypte et lancer le nouvel empire. Son successeur direct n'y est pas parvenu, mais le suivant, Ahmosis Ier, a initié une nouvelle ère. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir justement la momie de ce pharaon qui livre les secrets de sa mort violente. Et une momie qui a été découverte en 1880, et on comprend un petit peu qu'il a subi une exécution cérémonielle. Mon Dieu, mon Dieu. Mais dans quel monde vivons-nous ? Allez, dans un monde de musique, bien sûr, sur l'antenne de Graphite.
Blöd und kläglich spiegelt sie sich in der Elbe. Athanasen noch langweilig. Werde sie wie sonst geschneuzelt. Und aus du sich noch scheinheilig. Oder plötzlich stolz gespreizt. Deinen Himmel, deine Götter, seit ich diesen Menschengericht wiedersehe und dieses Wetter.
Corps de brève sur l'antenne de Graphite, comme c'est un titre en allemand, je n'oserais pas donner le titre. Je ne vais pas m'aventurer à cet exercice. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique et on va parler des rêves. Tiens, un sujet qu'on évoque rarement et un article de Futura est assez intéressant parce qu'il explique justement que des chercheurs prouvent qu'il est possible de communiquer pendant ses rêves. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Lorsque nous rêvons, nous sommes à première vue coupés du monde, incapables de recevoir des informations de l'environnement et d'y répondre. Et bien pour la première fois, il y a une collaboration entre des chercheurs de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'APHP, un hôpital de Paris, Sorbonne Université, le CNRS, il y a également des groupes américains, allemands, néerlandais. Ils ont tous travaillé ensemble et cette collaboration montre qu'une communication à double sens, c'est-à-dire de l'expérimentateur vers le rêveur et vice-versa, eh bien cette communication est possible au cours du rêve. Ces résultats ont été publiés dans la revue Current Biology et ces résultats ouvrent la voie à une meilleure compréhension scientifique du rêve et du sommeil. Pourquoi rêvons-nous ? De quoi rêvons-nous exactement ? Que se passe-t-il dans notre cerveau au cours de cette expérience si mystérieuse ? Ce sont autant de questions qui passionnent les chercheurs en neurosciences et auxquelles il est quand même particulièrement difficile de répondre. Parce que les connaissances scientifiques sur les rêves s'appuient aujourd'hui principalement sur le récit qu'en fait le rêveur à son réveil. Des biais de mémoire, d'autocensure, encore de fabulation sont donc possible. Et pour faire avancer la recherche, les scientifiques se sont donc tournés vers ce qu'on appelle les rêveurs lucides. Ce sont des personnes conscientes de rêver lorsqu'elles rêvent et qui, pour certaines, sont capables d'influer sur le scénario de leurs rêves. Ça, c'est génial, ça. Et donc, des études ont notamment montré que ces fameux rêveurs étaient capables d'informer de leur lucidité et donc du début à la fin d'une tâche prédéfinie réalisée en rêve. Par exemple, retenir sa respiration, eh bien, il pouvait donner donc, informer de cette lucidité grâce à un code préalablement appris. Cette communication était cependant à sens unique, seul le rêveur étant à même d'envoyer un signal qu'il a conscience qu'il rêve. Ok, et là, on veut une information qui soit dans les deux sens. L'idée d'une communication à double sens pouvait paraître une ambition inatteignable. Comment communiquer avec quelqu'un d'endormi ? Mais si nous montrions qu'elle était possible, eh bien de nouvelles pistes fascinantes s'ouvraient pour l'étude du rêve. C'est ce qu'explique Delphine Oudiette, qui est donc chercheuse à l'INSERM et qui a participé à cette étude. L'équipe a d'abord fait appel à un rêveur lucide très expérimenté pour essayer d'établir cette double communication. En fait, les chercheurs, ils ont utilisé différents types de stimulation, comme des questions ouvertes posées à voix haute. Est-ce que tu aimes ceci ou cela ? Des stimuli un peu tactiles, c'est-à-dire des tapotements sur la main à compter, ou encore des tâches de discrimination sémantique, c'est-à-dire distinguer des mots simples comme « haut », « bas » et ainsi de suite. Et donc le sujet endormi devait ensuite répondre à ces questions en contractant les muscles de son visage. Par exemple, sourire pour dire oui, froncer les sourcils pour dire non, par exemple. Et les résultats de cette expérimentation suggèrent que le sujet était capable de répondre à un certain nombre de ces stimulations alors qu'il était endormi. Au réveil, il a par ailleurs rapporté que la voix de l'expérimentatrice survenait comme une espèce de voix divine, dit-il, au beau milieu de son rêve, dans lequel il faisait la fête avec des amis. C'est vrai que rêver de faire la fête avec des amis, en ce moment, ça serait quand même pas mal, effectivement. Nous avions donc une première preuve qu'un dialogue avec un rêveur est possible. Nous nous sommes alors aperçus que plusieurs autres laboratoires dans le monde conduisaient des expériences similaires. Dans notre équipe, nous menons nos études avec des sujets narcoleptiques, car leur accès au sommeil paradoxal au cours duquel le rêve lucide se produit et privilégié, mais d'autres réalisent leurs expérimentations sur des sujets sans troubles du sommeil, un petit peu partout dans le monde. Donc les différents groupes qui ont participé, français, américains, allemands, néerlandais, ils ont donc décidé de mettre leurs données obtenues à partir de leurs études en commun, et cette collaboration leur a permis de confirmer avec des données supplémentaires qu'il est donc possible d'avoir une communication dans les deux sens pendant que quelqu'un est en train de rêver. Dans les différentes études, les sujets étaient, par exemple, capables de répondre aux questions des expérimentateurs, par exemple, on leur demandait des exercices de calcul mental. Et donc, du coup, vous voyez, soit en contractant certains muscles du visage, ils étaient capables de pouvoir répondre. Et en combinant ces tâches et des enregistrements électrophysiologiques, les chercheurs ont montré que les rêveurs étaient toujours en sommeil paradoxal lorsqu'ils répondaient aux questions. C'est assez fascinant. Alors, s'il s'agit pour le moment d'une preuve que la communication en double sens est possible, les implications pour la recherche portant sur le sommeil, le rêve ou même la conscience sont bien sûr majeures. Ces travaux remettent un peu en cause l'idée selon laquelle nous sommes complètement coupés du monde lors du sommeil, incapables de recevoir ou d'envoyer des informations à notre environnement. La possibilité de communiquer avec le rêveur ouvre également des perspectives pour identifier des marqueurs physiologiques de la conscience et du rêve, décoder l'activité de notre cerveau au cours de cette expérience afin de mieux comprendre le rôle du rêve et du sommeil. C'est assez fascinant, on n'en parle pas du tout. Je me prends que c'est la première fois qu'on parle dans cette émission du rêve et donc des expérimentations qui sont produites notamment en France sur ce sujet-là par l'INSERM et le CNRS entre autres. Mais donc voilà, des chercheurs prouvent qu'il est possible de communiquer pendant ces rêves. Mon Dieu, c'est voilà, je ne sais pas. Ça me faisait, je crois que c'est un film que j'avais vu ça déjà. Je crois que c'est avec Leonardo DiCaprio, il me semble, où il essayait de rentrer dans le rêve de quelqu'un et ainsi de suite. Enfin, c'est voilà, c'est plus maintenant du film de science-fiction. C'est assez fascinant et du coup, ça peut avoir des répercussions assez importantes, bien sûr. Allez, on continue d'écouter un petit peu de musique sur l'antenne de Graphite.
Bonjour, violente femme. Bonjour, Grace Kelly. Bonjour, madame. Hello, Superman. Bonjour, solitaire. Bonjour, tous les jours, tout à l'envers. Dernier
Le regretté Rachita sur l'antenne de Graphite avec Bonjour. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Passez le téléphone au monde avion, bien sûr. Avant les premières tours de roue, c'est la consigne que donne systématiquement le personnel de bord depuis le début de la téléphonie mobile. Force est de constater qu'en pratique, ce n'est pas toujours vraiment appliqué par les passagers. Et bien aujourd'hui, avec le déploiement de la 5G, cette consigne est recommandée aux compagnies aériennes par la Direction générale de l'aviation civile dans son bulletin d'information sécurité datant du début de cette année. L'organisme incite les exploitants à rappeler aux passagers de couper leur connexion cellulaire au réseau 5G sur les mobiles compatibles en raison, dit-on, d'éventuelles interférences qu'ils pourraient causer sur les radioaltimètres des avions de ligne. Une information qui vient également d'être confirmée par un porte-parole de la Direction générale de l'aviation civile à l'AFP. Bref, utilisé en complément d'un altimètre barométrique, cet appareil mesure la hauteur de l'avion par rapport au sol en fonctionnant comme un radar. Donc il est essentiellement exploité pour les vols sans visibilité et notamment en proximité du sol. L'autorité en fait s'inquiète essentiellement des interférences qui pourraient avoir lieu lors de la phase finale d'un atterrissage quand on est environ à 300 mètres du sol hauteur et donc il y a une potentielle altération des données qui seront relevées. L'autre souci, c'est que ce radioaltimètre est lié à un système d'alarme de proximité qui alerte l'équipage. Donc celui-ci pourrait alors se déclencher et perturber l'équipage au moment où sa charge de travail est importante. Alors pour relever la trajectoire verticale, ce radioaltimètre émet des ondes sur une plage de fréquence spécifique, un spectre qui est suffisamment proche de celui de la 5G, vous l'avez compris, pour pouvoir être éventuellement perturbé. Donc, il faut dire que ces antennes peuvent potentiellement émettre au-delà de leur spectre de façon temporaire. Bref, ça va se mélanger tout ça. C'est quand même pas... ça va pas faire bon ménage à l'atterrissage. La Direction générale de l'aviation civile joue la carte de la prudence et appuie sa recommandation sur un rapport d'un organisme américain chargé des fréquences radio du secteur aéronautique qui date de octobre dernier. Ce rapport conclut alors sur la possibilité de perturbation avec certains modèles de radioaltimètre. Ok, ça va être assez compliqué. Le principe de précaution prévaut toujours en matière de sécurité aérienne, bien sûr. En fait, plus que l'antenne 5G, ce qui préoccupe la Direction générale de l'aviation civile, c'est que la technologie active de la 5G vient pointer directement son faisceau sur les mobiles 5G à bord de l'avion. En revanche, Comme explique la direction générale, elle ne peut pas véritablement confirmer ou infirmer les effets que cette 5G pourrait avoir sur les appareils à bord. C'est pour cette raison qu'il s'agit donc d'une recommandation et non d'une obligation réglementaire. Mais bon, ça va être suivi de près, parce qu'effectivement, si on est sur une situation assez particulièrement dangereuse, eh bien, à mon avis, mes enfants, il va falloir vraiment couper nos téléphones 5G quand on va atterrir. Sinon, on va se crasher. Bon, quand on reprendra les avions, hein, pour d'ici là... On a le temps encore d'y réfléchir. En tout cas, voilà, c'est une recommandation qui a été relayée par la délégation générale de l'aviation civile. Autre information assez prometteuse qui concerne les personnes qui souffrent d'un handicap. On estime à environ 22 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'un handicap, dont 8 millions d'enfants. Rien qu'en Inde, 40 000 personnes perdent leur avant-bras chaque année. 85% restent sans solution. La majorité de ces patients, en fait, n'ont pas accès à des prothèses modernes parce que ça coûte cher, tout simplement des dizaines de milliers d'euros. C'est ce qu'explique Prashant Gad, le fondateur d'une start-up indienne, Inali. Et ce jeune entrepreneur de 27 ans a décidé de s'attaquer au problème en concevant une prothèse en 3D low cost. Légère, facile à porter et donc abordable, puisqu'elle coûte entre 250 et 3000 euros et s'adapte à la morphologie des patients. En fait, contrairement aux prothèses contrôlées par les mouvements des muscles, eh bien, le bras robotique se base sur l'impulsion cérébrale. Des capteurs enregistrent les signaux nerveux et envoient au processeur l'action à déclencher. Cela rend le bras plus précis car les mouvements musculaires peuvent être mal détectés chez les personnes souffrant de brûlures avec beaucoup de graisse corporelle ou même par la transpiration. Donc la prothèse est fabriquée en silicone et polyéthylène pour la légèreté et l'aspect esthétique et avec un mécanisme interne en acier. C'est assez léger parce que ça a un poids total, nous dit-on, de 450 grammes. Donc effectivement, c'est assez solide parce que ça permet de soulever des charges jusqu'à 10 kilos. Oui, effectivement. Et on peut agripper des objets ou bouger les doigts individuellement. Donc cette start-up indienne, Inali, est aujourd'hui le plus grand fournisseur de bras électroniques en Inde avec plus de 2000 prothèses distribuées, dont 700 gratuitement, nous dit le communiqué de presse. Et cette entreprise vise aussi le Bangladesh et l'Afrique. Son principal atout, c'est bien entendu son accessibilité par rapport aux prothèses importées. Et comme elle est fabriquée localement, la prothèse bionique se remplace aussi facilement. Et cette start-up promet un délai d'intervention de 2 jours pour une réparation et un remplacement court. On explique que le bras a une durée de vie d'environ 3 ans. Grâce donc à cette technologie, eh bien, on a pu tester tous nos produits et vérifier le bon fonctionnement, comme les interférences entre les doigts ou les problèmes d'assemblage. Nous avons ainsi pu modéliser chaque bras avant de fabriquer une unité physique, ce qui a économisé beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, nous dit cet entrepreneur, qui a ainsi pu effectuer de nombreux tests auprès de patients qui lui ont permis d'améliorer son design. Une première version comprenait par exemple 2 lourdes batteries, ce qui a été complètement pénible à supporter au-delà d'un certain temps. Et il a donc, dit-il, utilisé une batterie de téléphone portable. Et lorsque le patient n'utilise pas son bras, il peut même recharger son portable dessus. Effectivement, ça peut faire double usage. Bref, sur tous les fronts, cette start-up Inali a développé un prototype de respirateur intelligent en plus en moins de 10 jours durant la crise de cette Covid-19. Et ce respirateur permet d'ajuster le débit, la pression de l'oxygène en fonction de la respiration du patient. Ok, pas mal de choses, hein. Philanthrope celui-là. Il donne aussi l'alerte lorsque le volume d'oxygène est trop bas ou la pression est trop élevée. Et il y a plusieurs exemplaires qui ont été envoyés gratuitement à les hôpitaux durant la pandémie. Bref, des prothèses low cost en 3D pour aider les personnes en situation de handicap, c'est ce que développe cette start-up indienne Inali, qui est donc une entreprise qui sait aussi très bien communiquer. Il y a un marché qui est quand même compétitif, une vitesse de développement qui est primordiale. Donc, ils communiquent pour essayer d'obtenir aussi quelques financements pour développer cette ingénieuse idée. Et il a bien raison, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, effectivement, c'est un marché concurrentiel comme tout. Hein, toujours derrière des histoires d'argent, bien évidemment, je ne vous apprends rien. Mais voilà, c'est assez, assez éloquent également et assez intéressant d'un point de vue, bien sûr, technique. Allez, on va écouter Electric Bazar Company. On se retrouve juste après, bien sûr, pour continuer à développer l'actualité scientifique. Electric Bazar Company avec It's You I Wanna Do sur l'antenne de Graphite. On va parler football, tiens, pour une fois, enfin football. Football virtuel, hein, parce qu'avec cette période de pandémie, confinement, couvre-feu, les footballeurs amateurs sont les laissés pour compte du sport. Seuls les professionnels sont autorisés à s'entraîner, les autres peuvent uniquement courir, puisque, bien sûr, tout rassemblement est proscrit. Mais voilà peut-être l'application rêvée pour patienter et garder la forme. Elle nous est présentée par Futura. Elle a été développée en Grande-Bretagne. C'est l'application Resil Player 21 qui se présente en parfait complément d'entraînement du footballeur moderne, du niveau amateur à professionnel, hein, garçon, fille, et ça présente une gamme d'exercices d'entraînement en réalité virtuelle pour permettre d'analyser les capacités physiques et techniques, les comparer et puis faire progresser, bien sûr, ses utilisateurs. Alors que de nombreux complexes sportifs indoor, bien sûr, sont toujours fermés à la pratique pour les amateurs, on le sait, bien sûr, eh bien, cette application se distingue comme une réelle alternative pour continuer de bosser entre guillemets à la maison ou pour aider un joueur, une joueuse convalescente à retrouver la forme, à condition, bien sûr, nous dit-on, d'avoir une pièce suffisamment grande pour éviter un petit peu l'accident domestique bête. C'est vrai que ça serait un petit peu dommage de casser le vase de mémé en ayant fait une petite passe malencontreuse. Bref, parmi les exercices proposés, basés sur le principe de la répétition, de la vitesse d'exécution et de réaction, eh bien, on retrouve du classique, hein, bien sûr, hein, la frappe avec des cibles à viser, ça rapporte plus ou moins de points, et la précision, la vitesse des passes, tout ça est analysé. Alors, il y a également un complément qui a été proposé qui s'appelle le Color Combo. C'est un exercice qui incite l'utilisateur à justement utiliser les différentes surfaces de ses pieds pour renvoyer des ballons selon les couleurs qui s'affichent et qui correspondent aux différentes zones du pied. Alors, pour que l'application fonctionne, il faut bien sûr se munir d'un casque de réalité virtuelle, mais aussi d'un capteur qui va être placé au niveau de la cheville ou de la basket, qui va donc permettre de renseigner votre position, de collecter des données, tout ça pour apporter des informations sur votre niveau technique, physique et accessoirement également pour vous faire progresser. Autre impératif, c'est quand même une configuration puissante qu'il faut avoir, puisqu'il est recommandé de disposer d'un ordinateur équipé de 16 gigaoctets de mémoire vive, bien sûr. C'est pas la portée de tout le monde. C'est intriguant à première vue, mais en tout cas, le dispositif semble avoir déjà conquis le monde du football professionnel, puisque il y a eu des partenariats mis en place avec des institutions comme Nike, Adidas, les fédérations françaises et italiennes de football, la première ligue anglaise, des clubs plus précisément comme Manchester City, Liverpool ou même le PSG également qui participent. En fait, ça permet en plus, avec la collecte de données en temps réel et une analyse post-match plus poussée, d'avoir des éléments d'information de plus en plus précis et efficaces. Bref, les joueurs peuvent désormais s'entraîner sans ballon, sans terrain, grâce à la réalité virtuelle. C'est le renouveau du foot. Vous voyez, ça va être le télétravail. Les footballeurs vont être maintenant en télétravail également. Il n'y a plus de raison, c'est vrai. On va tous être enfermés chez soi. Et comme ça, voilà, on aura réussi. Il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. J'ai bien l'impression. Enfin, on découvre des choses totalement extraordinaires. Je vous ai dit, cette émission, on partait un petit peu dans tous les sens et on a un petit peu toutes les thématiques aujourd'hui. Autre chose, toujours au niveau de la modernité, de la technologie, cet autre article qui concerne les capteurs de température, d'humidité, les capteurs détecteurs de fumée, les capteurs également au niveau des cartes électroniques, les badges d'accès, les équipements de la maison qui sont connectés, la domotique, bref. D'ici 2025, le monde comptera apparemment près de 42 milliards d'objets connectés, selon une étude du cabinet IDC, un rythme de croissance effréné qui pose le problème de l'alimentation en énergie de tous ces appareils. Pour contourner les piles et les batteries au lithium, eh bien, il y a une start-up française qu'on a déjà évoquée dans cette émission. C'est la start-up Dracula Technologies. Enfin, un jour, quand même, qu'on nous explique comment ils ont voulu choisir ce nom-là pour une start-up Dracula Technologies. En tout cas, cette start-up a mis au point des modules photovoltaïques capable de générer de l'électricité à partir de la lumière ambiante, la lumière naturelle ou la lumière artificielle. L'innovation de cette start-up a d'ailleurs été sélectionnée parmi les lauréats des prix de l'innovation du fameux Consumer Electronics Show, ce fameux grand salon de Las Vegas qu'on évoque toujours tous les mois de janvier, tous les ans, parce que c'est là qu'on découvre toutes les nouvelles technologies. Bon, là, c'était un salon virtuel, évidemment, mais en tout cas, il y a des palmarès, il y a des récompenses qui sont proclamées, donc c'était le cas de cette innovation. Bref, grâce à ces modules, les objets sont autonomes, en énergie, et ils sont utilisables à l'intérieur de bâtiments ou d'usines, parce qu'on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser la lumière directe du soleil. On a donc aussi la possibilité d'avoir des lumières artificielles, donc en clair, les lampes de nos maisons. Ça, c'est possible. Les cellules solaires classiques en silicium sont très efficaces en lumière extérieure, mais elles sont peu performantes en intérieur parce que la luminosité, elle est 10 à 1000 fois inférieure. C'est ce qu'explique Sadok Benklil, qui est le directeur technique chez cette start-up Dracula Technologies. Les cellules photovoltaïques organiques captent, elles, l'espèce de spectre lumineux différent. C'est-à-dire que ça va les rendre beaucoup plus efficaces, même si elles sont en intérieur, et qu'elles vont capter de la lumière avec nos ampoules à filaments ou nos ampoules LED également, qui sont de plus en plus utilisées dans nos éclairages intérieurs. Et donc, cette start-up a mis au point un système qui repose sur la maîtrise d'un procédé de fabrication de cellules photovoltaïques organiques par impression numérique. Et on en avait déjà parlé parce que c'est totalement intéressant. C'est-à-dire que si vous pouvez utiliser de l'énergie en captant justement l'énergie de la lumière artificielle à l'intérieur des bâtiments pour pouvoir produire une énergie qui va pouvoir alimenter toute cette multiplicité d'objets connectés, ça va quand même pas mal soulager justement l'utilisation de ces fameux objets. On n'aura plus besoin de capter la lumière du soleil, mais on pourra capter la lumière de nos lampes néons, peut-être, si c'est possible, dans le cas de ce studio, par exemple. Bref, c'est un fruit de 7 années de recherche et développement pour cette entreprise qui a donc développé cette technologie protégée par 6 brevets, nous dit-on, et qui a fait l'objet d'une 60aine de publications scientifiques. Elle ne travaille pas seule, cette start-up. Elle a des partenaires de renom, le CNRS, l'Université d'Aix-Marseille, Airbus, bien sûr. Et donc, cette start-up vient de lever 2 200 000 euros pour lancer la pré-industrialisation de cette technologie. Cette levée de fonds a été également complétée par des organismes de financement. Bref, derrière, on a bien compris quel était l'intérêt de tout ça. Donc, il était intéressant de pouvoir aider cette start-up pour améliorer la performance de cette technologie. Une société implantée dans la Drôme, précisément à Valence, et qui compte déjà plusieurs clients dans l'électronique ou la domotique, que ce soit en France ou en international. Bref, la lumière qui va être à l'avenir la solution énergétique pour les objets connectés, bien évidemment. Allez, on écoute un dernier titre et puis on terminera avec une dernière information sur le changement climatique qui aurait aidé les dinosaures à traverser la Terre. Vous voyez que finalement, c'est pas une chose récente.
sisters, I can remember when we were still friends. We clung together playing Robinson Crusoe. And I can remember birthday parties. I remember when you used to be my friend.
Fredo Viola avec Robinson Crusoe sur l'antenne de Graphite. Il y a 230 millions d'années, les grands sauropodes sont apparus en Amérique du Sud. Les plus anciens fossiles de ces dinosaures herbivores, par exemple le brontosaure, le brachiosaure, le diplodocus, eh bien ces fossiles ont été retrouvés en Argentine et au Brésil par les paléontologues. Mais il faut attendre 16 millions d'années pour trouver la trace de ces sauropodes au Groenland, à l'autre bout du globe. Et à cette époque, les terres, elles sont toutes reliées entre elles. Il y a une espèce de super continent qu'on appelle la Pangée, ce qui permettrait en fait de passer de l'actuel Brésil à l'actuel Groenland. Si on considère qu'un dinosaure marche en moyenne au rythme de à peu près 2 km par jour, eh bien le voyage aurait dû prendre moins de 20 ans. Or, cela a pris 15 millions d'années, même un escargot serait allé plus vite. C'est ce qu'explique Dennis Kent, qui est professeur à l'Université de Columbia aux États-Unis. Il a travaillé avec son collègue de Copenhague, Lars Clemensen, et ils se sont interrogés sur ce laps de temps incroyablement long. Et ils ont constaté une étrange corrélation entre cette période et un changement climatique juste à ce moment-là. C'est-à-dire que jusqu'à moins 215 millions d'années, le climat était ainsi marqué par une forte concentration en dioxyde de carbone, 10 fois plus qu'aujourd'hui. Or, nous savons, dit Dennis Kent, qu'avec un taux de dioxyde de carbone plus élevé, le climat sec devient plus sec et le climat humide devient plus humide. Il est donc possible que les zones arides aient été alors trop sèches pour permettre les mouvements de ces grands herbivores qui ont besoin de manger beaucoup de végétation pour survivre. Et puis les tropiques, elles aussi, elles devaient connaître des conditions pluvieuses qui ressemblent un peu à la mousson, qui n'est pas vraiment idéale pour eux. Bref, les dinosaures se sont peu aventurés au-delà des zones tempérées. Ils étaient bien au calme en Argentine et au Brésil. Tu m'étonnes, mais peu à peu, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère baisse. Et donc, entre 215 et 212 millions d'années, sa concentration diminue de moitié. Le climat se tempère alors un peu partout et le Groenland connaît un climat similaire à celui de la France aujourd'hui, mais avec des hivers beaucoup plus doux. Et il s'est formé certains passages, comme le long des rivières ou des chaînes de lacs, qui ont pu aider ces fameux herbivores dans leur voyage de 10 000 km entre l'actuelle Amérique du Sud vers le Groenland, où leurs fossiles sont maintenant abondants. C'est ce qu'atteste Dennis Kent, dont les travaux ont été publiés dans la revue PNAS. Bref, les chercheurs reconnaissent eux-mêmes que cette théorie est sujette à caution, bien sûr, que la concomitance entre les deux événements est peut-être une pure coïncidence. Mais il y a quand même une autre étude qui date de 2015, elle, qui avait mis aussi en relation la variation du niveau de dioxyde de carbone et l'absence de grands dinosaures en Amérique du Nord il y a 230 millions d'années. Selon les auteurs, la région qui se situait alors au niveau de l'Inde actuelle était soumise à des fluctuations extrêmes de température et également de gigantesques incendies de forêt. Ces incendies ont constamment balayé la végétation qui était disponible pour les grands dinosaures herbivores. Bref, ça les empêchait de partir. Et c'est au moment où la chute de dioxyde de carbone n'a pu être que favorable à l'incroyable expansion des dinosaures, qui fait qu'ensuite, ils ont pu dominer la planète durant 150 millions d'années. C'est assez intéressant de voir qu'il y a plus de 200 millions d'années, on se posait déjà la question du changement climatique et de l'impact qu'il pouvait y avoir sur les dinosaures à l'époque. Mais voilà, c'est un éternel recommencement, bien évidemment, et ça prouve, là encore, qu'on est en train, aujourd'hui, d'assister à une évolution, cette fois très rapide, de ce changement climatique, alors que voilà, à l'époque, il a fallu 15 millions d'années pour aller du Brésil au Groenland pour ces dinosaures. Donc voilà, c'est aussi une illustration assez intéressante et un sujet qu'on n'évoque pas non plus. Les dinosaures n'est pas un sujet de prédilection dans cette émission. Il n'y a pas énormément d'études ou en tout cas, il n'y a pas énormément de communication faite sur ce sujet-là. On aura bien sûr l'occasion, je l'espère, de revenir si des études vont corroborer ce que l'on vient d'évoquer. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Je vous retrouve samedi prochain. On continuera bien sûr à développer l'actualité scientifique. Dans un instant, la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Vous restez fidèles, bien évidemment, à l'ensemble des émissions sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.